Galates 5 est un merveilleux chapitre qui nous parle de la liberté en Christ. Et je suis heureux de méditer cela avec vous ce matin. Mais vous le savez, c'est toujours très important de replacer un texte, un verset, une perle, et même un chapitre dans son contexte. Et je vous propose de lire quelques versets, d'abord au début de la lettre, pour resituer un peu le thème, le fil conducteur de la lettre de Paul aux Galates, qui est probablement un des tout premiers écrits du Nouveau Testament, avant même les évangiles. Un des tout premiers écrits du Nouveau Testament. Donc on va lire quelques versets qui resituent un peu le thème, et puis on arrivera à Galates 5, qui nous parle de la liberté. Tout d'abord, les versets 3 à 5 du chapitre 1, tout au début de la lettre, voilà, nous y sommes. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle présent, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est une salutation assez classique, mais néanmoins très belle, très riche. Que la grâce et la paix soient avec vous. Et quand il est parlé de Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, pour nous arracher à ce qui est mauvais, nous venons de nous en souvenir avec le pain et la coupe. Et il se trouve que c'est quand même un thème particulièrement présent dans la lettre de Paul aux Galates, la libération que Dieu seul peut nous accorder. Et une des très fausses pistes dans laquelle se retrouvaient les gens de Galates, c'est ce qu'on peut appeler le légalisme, ou, en le disant autrement, la confiance exagérée en l'homme en soi, croire que l'on peut s'en sortir tout seul. Je ne sais pas combien de temps vous avez essayé, combien de fois vous essayez de vous en sortir tout seul, mais ça ne marche pas. Pour les plus grands combats de la vie, pour les plus grands défis de transformation intérieure, on ne peut pas. C'est Dieu qui peut le faire. Quelques versets à peine plus loin, les suivants, en fait, Galates 1, 6 à 9, qui nous montrent que l'apôtre Paul écrit à des gens qui sont vraiment dans les difficultés. Galates 1, 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Si David Dixon, si Étienne Gros-Renaud, si Nicolas Robin vous annoncent autre chose que ce que Dieu annonce dans sa parole, ne les écoutez pas. C'est très rare, c'est unique dans les lettres de l'apôtre Paul que nous avons dans le Nouveau Testament, qu'une lettre commence avec un ton si triste, sans une phrase du genre « Toutes les fois que je pense à vous, je bénis Dieu pour sa grâce dans votre vie. » On a toujours ça dans les lettres de l'apôtre Paul, sauf ici. Il a écrit aux Philippiens, une église qui allait plutôt bien. Il a écrit aux Corinthiens, une église où il y avait beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes d'immoralité, beaucoup de problèmes d'égoïsme, d'idolâtrie même, de comportement. À la fin de la Sainte-Seine, certains étaient sous. Pas très bon ça. Hein. Et pourtant, même quand il écrit aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit « Je bénis Dieu pour son œuvre parmi vous ». Par contre, quand il écrit aux Galates, on n'a pas cette phrase. Et ça commence tout de suite avec « Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Je m'étonne que ça aille si mal parmi vous. » Et en fait, ce qui est en jeu dans les églises à qui Paul écrit, c'est le cœur du salut, c'est-à-dire le salut par grâce seulement, et non pas par les œuvres. À peine plus loin, on va lire Galates 3, 1 à 3, où l'apôtre Paul se fâche avec amour, c'est possible ça, oui. L'apôtre Paul se fâche avec amour tellement ceux à qui il écrit sont à côté du chemin. Galates 3. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou bien en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous perdu la tête? Dit l'apôtre Paul aux gens de Galates. La tristesse et l'inquiétude de Paul sont tellement grandes qu'il traite les Galates d'insensés. Et si Paul est dans un tel état de tristesse, c'est parce que le cœur de l'Évangile est en jeu. Nous arrivons déjà, je voulais simplement parcourir les deux, trois versets, avant d'arriver au chapitre 5. Galates 5, le verset 1 et le verset 4. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Verset 1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. L'apôtre Paul dit, faites bien attention de ne pas retourner vers l'esclavage. Un peu surprenant, non? Vous avez été libérés. Faites bien attention de ne pas avoir trop envie de vous retrouver esclaves. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est quand même étonnant. Verset 4, surprenant aussi, très fort, très solennel. L'apôtre Paul ne dit pas « Votre théorie est dangereuse ». Il dit clairement « Vous êtes complètement à côté de la vérité. Vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification de la loi. Vous qui croyez pouvoir vous en sortir par vos mérites, par l'observation de la loi. Vous êtes complètement séparés de Christ. C'est aussi grave que cela. » Je fais un parallèle avec un verset qui a été lu par Nicolas avant que l'on prenne la scène tout à l'heure, Galates 2, 21. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort pour rien. Si l'un de nous, quelques-uns d'entre nous, pouvaient obtenir le salut tout seul, Christ serait mort pour rien, puisqu'il est mort pour sauver les personnes qui ne pouvaient absolument pas y arriver par elles-mêmes. Et inversement, Galates 5, 4, si nous croyons pouvoir y arriver tout seul, alors nous sommes complètement séparés du Christ. Nous sommes dans un autre terrain. Nous sommes dans un autre monde. Et c'est aussi grave que cela. Une parenthèse avant de continuer notre réflexion sur la liberté. Dans la lettre aux Galates, l'apôtre Paul montre qu'il y a des choses incompatibles. On ne peut pas croire s'en sortir par nos mérites et croire en même temps que l'on est sauvé par grâce. C'est incompatible. Il y a deux couples de mots qui sont incompatibles dans la lettre de Paul aux Galates. L'esprit et la loi. Je précise, la loi mal comprise. Est-ce que la loi de Dieu est bonne?
Oui.
Merci. Et pourtant, l'apôtre Paul oppose l'esprit et la loi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi mal comprise s'oppose à l'esprit. La loi mal comprise, c'est la loi comme moyen de prouver aux autres, de me prouver à moi et de prouver à Dieu que je sais me comporter d'une manière meilleure de jour en jour, d'une manière juste, qui fait que Dieu doit me considérer bon. Ça, c'est la loi mal comprise. Par contre, la loi bien comprise, qui révèle la pensée de Dieu, elle est bien évidemment parfaitement en accord avec l'esprit. Donc c'est la loi mal comprise comme moyen de salut qui s'oppose à l'esprit, et non pas la loi comme révélation de ce qui est Dieu, ce qui est bon, pardon, aux yeux de Dieu. Un autre couple de mots qui s'oppose dans la lettre de Paul aux Galates, c'est l'esprit et la chair, ou l'esprit et le monde. L'esprit est ce qui en moi s'oppose à Dieu. C'est un grand contraste, on va le voir dans quelques minutes en lisant les versets qui suivent, mais je le dis dès maintenant, l'apôtre Paul oppose ce que je fais par nature et ce que Dieu veut que je fasse. Il y a un autre chapitre assez connu dans les lettres de Paul dans lequel il dit beaucoup cela, c'est Romains 7. Il dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et c'est tout un long chapitre solennel où l'apôtre Paul dit que vraiment c'est difficile de faire ce que l'on sait être bon. Et c'est une bonne introduction à la réflexion sur la liberté. Je cite un autre verset qui dit que la lutte est difficile contre le péché, c'est Hébreux 12, qui dit que nous sommes environnés par le péché qui nous enveloppe si facilement. On est aussi environné de témoins qui nous exhortent à aller du bon côté. Mais le péché nous enveloppe facilement. Et je prends une minute pour confesser que j'en suis le témoin dans ma vie. Et je nous invite à le reconnaître. Le péché n'est pas quelque chose qui, de temps en temps, nous complique un peu la vie. Le péché est le problème numéro un dans notre marche chrétienne. Et mon plus grand problème, ce n'est pas les autres, leurs comportements, les circonstances, etc. C'est la force de ce qui, hélas, par nature, m'amène là où je ne voudrais pas aller. Et nous allons redécouvrir, en lisant un peu plus Galates 5 ce matin, que la liberté, ce n'est justement pas faire ce que je voudrais faire, mais c'est pouvoir faire ce que Dieu veut, parce qu'il est bon, ce que Dieu m'apprend à être le bien. Ça, c'est la vraie liberté. Je continue la lecture de Galates 5, et je lis les versets 13 à 17. Frères, dit l'apôtre Paul, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Le verset 1 que nous avons lu tout à l'heure dit « Vous avez été appelés à la liberté. » Ou plutôt, pardon, « C'est pour la liberté que Christ vous a libéré, demeurez ferme. » Et le verset 13, qui est sous vos yeux, dit « Vous avez été appelés à la liberté. » De quelle liberté l'apôtre Paul parle-t-il? J'aime beaucoup méditer ce chapitre 5 avec des adolescents qui suivent un cours biblique que nous appelons « Instruction religieuse » dans notre église à Blouse. Et nous parcourons tous les livres de la Bible. Et quand on arrive ici, j'aime beaucoup méditer ce chapitre avec eux. J'aime beaucoup le faire avec des adultes aussi. Parce que c'est vraiment étonnant de voir à quel point la parole de Dieu éclaire notre réflexion en révélant que nous sommes par nature bien à côté de la vérité. La liberté, dans notre petite tête et dans la conception de beaucoup d'hommes, c'est assez synonyme de faire ce que j'ai envie de faire. Ouais, on est d'accord. Mais l'apôtre Paul explique ici et nous aide à reconnaître que vraiment ce n'est pas une bonne définition. Parce que faire ce que j'ai envie de faire me complique beaucoup les choses, abîme beaucoup mes relations avec les autres, et me rend souvent bien honteux, parce que je suis souvent tiré vers le bas, attiré par des choses qui ne sont pas bonnes. Mais le péché étant dans le monde, cela est attirant, et je suis hélas conduit vers ce genre de choses. Pour l'apôtre Paul, la liberté, ce n'est pas faire ce que j'ai envie de faire. La liberté, c'est faire le bien. La liberté de faire le bien est le grand vœu de l'apôtre Paul pour nous tous. Il y a quelque chose d'intéressant à la fin du verset 13, oui, il avait là en dernière ligne. Au moment où l'apôtre Paul nous aide à mieux comprendre ce qu'est la liberté, écoutons ce qu'il dit, à tout à la fin, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. On n'aurait pas forcément mis ça l'un à côté de l'autre, mais la liberté est être serviteur. Et pour l'apôtre Paul, ça va très bien ensemble. Il va dire dans plusieurs textes, que je cite maintenant, ils ne vont pas apparaître au mur, mais je vous les cite. L'apôtre Paul parle de l'esclavage de celui qui est libre et de l'esclavage de celui qui n'est pas libre. Il y a deux façons de se soumettre à une grande loi. Soit on se soumet au bien, soit on se soumet au mal. Écoutez ce qu'il dit aux Corinthiens. L'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous ne l'avez pas sous les yeux, mais je vais y aller doucement. L'apôtre Paul dit qu'un esclave, au sens de la société, qui devient chrétien, est en fait quelqu'un qui est libéré par le Seigneur. Par contre, il nous fait remarquer qu'un homme libre, donc un chrétien, un croyant, quelqu'un qui progresse dans le bien, est lui un esclave du Christ. Donc il joue avec les mots, et on va essayer d'en retirer quelque chose. Être esclave du Christ, être soumis à quelqu'un qui a de si bons vœux pour nous et qui peut nous aider à faire le bien, en fait, c'est être libre. Amen. Être esclave de sa propre liberté, être esclave de l'idée que je fais tout ce que je veux, c'est en fait ne pas être libre. Donc quand on se croit libre de faire ce qu'on veut, en fait, on est esclave de ce que l'on peut reconnaître comme n'étant pas bon. Et quand on est soumis au Christ, quand on est, si on force le vocabulaire, esclave du Christ, en fait, on est libre. Parce qu'on est heureux de faire des choses bonnes. Ça va ? En résumé, on est toujours soumis à quelqu'un ou à quelque chose. Et soit on est soumis à des mauvais penchants, à des mauvaises habitudes, à des passions mauvaises, à des dépendances, soit on est soumis à des règles de conduite qui nous semblent être bonnes, qui vont vers le bien, soit on est soumis à de bonnes habitudes, à de bonnes tendances, et on est heureux. Mais on est toujours soumis à quelque chose. Et donc la liberté, selon Galates 5, ce n'est pas, vous l'avez compris, je le redis, faire ce que l'on veut, ça finalement c'est un esclavage. La liberté, c'est aller là où nous sommes heureux d'aller, c'est-à-dire, c'est nous soumettre à Jésus-Christ. Franchement, si on relit le verset 15, qui va peut-être apparaître, mais que je vous relis en tout cas, c'est assez étonnant. Hein? L'apôtre Paul, il écrit à des églises, vous avez entendu ce qu'il dit ? Si vous vous mordez les uns les autres, et vous dévorez les uns les autres. Prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Oh, ça, c'est possible ça? À Mise, à Esprit, à l'ONU? Oui. On peut, par moment, hélas, se faire beaucoup de mal les uns les autres. Une parole de trop, deux, trois paroles, 10 paroles de trop. Des gestes, des attitudes. Et on peut se faire beaucoup de mal, même entre chrétiens. Et l'apôtre Paul nous fait remarquer que ça, c'est vraiment lourd de conséquences. Et ce n'est vraiment pas être libre. Mais, avec humilité, nous pouvons reconnaître que c'est ce que l'on sait faire assez facilement. Être égoïste, penser d'abord à soi et marcher un peu sur les pieds des autres. En général, on sait le faire. Par contre, on a beaucoup de difficultés à apprendre, à faire passer les autres en premier, à prendre soin des autres, à avoir un esprit de service. Et je vais vous relire ce qui ne va pas apparaître au mur et qui est très triste. La liste de différentes choses qu'on sait faire tout seul. C'est ce que l'apôtre Paul appelle les œuvres de la chair. C'est versets 20 à 21 qui précèdent le merveilleux fruit de l'esprit vers lequel on va arriver dans quelques minutes. Donc ça ne va pas apparaître à l'écran. C'est un peu un choix. C'est tellement triste. Je vais me contenter de vous le lire et je ne vais pas le lire 36 fois. Parce que c'est très triste. Les œuvres de la chair, dit l'apôtre Paul, sont évidentes. C'est l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, la discorde, les jalousies, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, les envies, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Wow. C'est une longue liste, hein ? Et elle n'est pas exhaustive. L'apôtre Paul dénonce ce que l'on peut facilement faire. Il appelle ça les œuvres de la chair, c'est-à-dire de la nature humaine sans l'aide de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on sait faire tout seul. Moi, je sais faire ça. Par contre, le bien, on va y venir dans quelques instants, c'est un cadeau que Dieu nous fait, ça s'appelle le fruit de l'esprit. Quelqu'un a prié dans ce sens au début du culte. Le fruit de l'esprit, c'est un cadeau, et c'est ce que Dieu veut nous accorder en nous libérant. La liberté, en fait, comme je l'ai déjà dit, c'est se soumettre à Jésus-Christ. La liberté, pour prendre un mot très proche, c'est une libération. Je cite l'Évangile, vous connaissez bien ce verset, je pense, Jean 8, 36. « Si le Fils, Jésus-Christ, vous affranchit, vous serez réellement libre. » Sous-entendu, il y a d'apparentes libertés, il y a de fausses libertés. « Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. » La liberté, c'est quoi? C'est être libéré, être affranchi. De quoi? De la liste que j'ai vue tout à l'heure, il y a quelques secondes, et que je ne vais pas relire. Être affranchi du mal, de tout ce qui crée des discordes ou des disputes. La liberté, c'est être délivré de ce qui nous tire vers le mal, de ce qui nous tire vers le bas. Et comment on reçoit cette liberté? Eh bien, elle est offerte. Je relis le verset 1 de ce chapitre 5 de la lettre de Paul aux Galates. C'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Qui peut libérer quelqu'un d'autre parmi nous dans cette salle? Personne. L'apôtre Paul est très clair, toute l'écriture est très claire. Un seul peut nous libérer. Un seul est mort à notre place sur la croix. Un seul est ressuscité, un seul est vivant. Un seul nous tient la main. Un seul est parmi nous dans cette salle. Capable de nous libérer du mal. Comment on reçoit la liberté? Parce que Christ nous l'offre, nous la recevons par grâce et non pas par les œuvres. Nous la recevons aussi en répondant à l'appel et en y travaillant. Il ne s'agit pas simplement d'attendre que tout se passe dans notre vie. Et c'est toute l'exhortation de Galates 5. L'apôtre Paul dit « Marchez selon l'Esprit ». C'est vrai que seul Jésus-Christ peut nous libérer, mais est-ce que tout naturellement, très facilement, tous les chrétiens d'esprit et de Mulhouse vont être de plus en plus des chrétiens délivrés du mal, qui ne font que du bien? Est-ce que ça se passe tout seul, sans effort? Non. Donc il faut bien comprendre l'articulation de tout cela. Je n'arriverai jamais par mes propres efforts à me rendre libre ou à rendre libre quelqu'un d'autre, à me libérer du péché. D'accord. Et pourtant, Jésus-Christ qui a tout accompli, qui est celui qui peut me libérer, m'enseigne que je dois faire beaucoup d'efforts pour le suivre et pour recevoir cette vie nouvelle que lui veut m'accorder. Simplement, les efforts ne consistent pas à me transformer, mais à l'écouter lui et à me soumettre à lui. De façon extrêmement concrète, j'ai beaucoup plus d'efforts à faire pour lire la parole, pour prier, pour cultiver la piété, que pour me transformer vous-même, moi-même. Et vous-même, ça se fait. Pour le dire autrement, ne nous trompons pas de combat. Je ne peux pas me transformer moi-même, mais je peux faire beaucoup d'efforts pour mieux connaître le Christ et pour cultiver la piété. Qui dans cette salle lit très facilement, très régulièrement la parole de Dieu, avec persévérance, avec fidélité, et prend du temps pour la prière? Vous êtes tous honnêtes. Et là, on a beaucoup d'efforts à faire. La liberté nous est offerte, mais n'ayez pas peur, la vie chrétienne n'est pas une vie où on se lasse parce qu'on n'a rien à faire. Il y a de gros efforts à faire pour mieux connaître celui qui nous libère et pour travailler à la soumission à Jésus-Christ. En troisième partie, la première c'était le contexte, la deuxième c'était quelques réflexions sur la liberté. En troisième partie, j'ai pensé vous faire rêver ce matin. Vous êtes d'accord de rêver? Et, bonne nouvelle, de rêver non pas de façon idéaliste, mais de façon réaliste. Et de rêver bibliquement. Vous êtes prêts? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Qu'on peut mettre et qu'on peut laisser quelques minutes, s'il rentre dans nos têtes, dans nos mémoires, si on sait ça par cœur, peut-être que c'est déjà fait, ou si on l'apprend dans les heures qui viennent, c'est quelque chose de merveilleux. Ce verset m'a beaucoup aidé à prier, m'a beaucoup aidé à réfléchir. C'est une des perles de la parole de Dieu, qui est dans un écrin qui évoque beaucoup de problèmes, la lettre de Paul aux Galates. Mais là, franchement, c'est une belle perle. Quelques remarques en terminant cette méditation sur la liberté, devant le fruit de la liberté, le fruit de l'esprit, ce que la liberté nous permet d'expérimenter, parce que Christ nous libère du mal. Quelques remarques tout d'abord sur l'expression « fruit de l'esprit ». J'ai commenté tout à l'heure les œuvres de la chair en disant « ça c'est ce que l'on sait faire tout seul ». Par contre, là, il est question d'un fruit. Et un fruit, ce n'est pas nous qui le faisons pousser. Je ne sais pas s'il y a des jardiniers dans la pièce, ou des personnes qui aiment les arbres. Et les fruits, on aime tous les fruits. Mais un fruit, ce n'est pas nous qui pouvons le faire pousser, c'est un cadeau. Et cette expression nous dit que ces choses merveilleuses qui peuvent nous faire rêver, nous ne pourrons jamais les créer nous-mêmes. C'est le fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui va développer cela en nous. C'est l'esprit qui fait que dans l'église d'Esprit, ce fruit existe déjà. Et vous êtes déjà cela, par la grâce de Dieu. Mais bien sûr, on peut l'être encore plus, parce que Dieu veut développer cela en nous. Donc un fruit, c'est un cadeau. Deuxième remarque, un fruit n'est pas instantané. Vous savez ça? Et il faut de la patience. Et je vous invite à accepter que le fruit de l'esprit ne soit pas parfaitement développé. Par exemple, dans mon très cher ami Nico. Et oui! Et dans vos voisins, vos voisins. Il faut accepter ça. Et peut-être, ce qui est très difficile, acceptons que ce fruit ne soit pas parfaitement développé en nous, soyons patients avec nous-mêmes. Et acceptons que le Seigneur n'a pas décidé de nous transformer en une seconde, le jour où on se convertit. Un fruit n'est pas instantané. J'ai un petit voisin qui a semé une graine de citronnier, il y a quelque temps, dans un petit pot. Et puis, il a arrosé, et puis une petite tige verte est apparue et a commencé à grandir. C'était mignon. Mais lui, il voulait voir un citronnier. Donc un matin, il a tiré un peu pour que ça aille plus vite. Puis il n'y a plus de citronnier. Dommage, hein? Petite illustration qui dit, on ne peut pas faire qu'un fruit arrive en une seconde. Il faut du temps. Et Dieu a décidé que l'amour, la joie, la paix, la patience, ça tombe bien, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, allait se développer en nous pour que ce soit de plus en plus beau. Mais ça prend du temps. Troisième remarque sur ce fruit, sur cette expression fruit. Un fruit, c'est beau. Et Dieu veut nous qu'on soit heureux pour ce qu'il a déjà fait en nous et heureux en espérance pour tout ce qu'il va encore faire en nous et chez nos frères et sœurs. Et si on parcourt en quelques secondes ces neuf facettes, franchement, c'est très beau. L'amour, en tête de liste. Pourquoi? Parce que c'est le résumé de tout. L'apôtre Pierre l'a dit, l'apôtre Paul l'a dit, le Seigneur l'a dit. Comment toute la loi se résume? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour est en tête de liste. Pas surprenant. C'est vraiment le résumé de tout. La joie. Fruit de cet amour de Dieu pour nous, de l'amour pour les autres, qui nous permet d'expérimenter la joie, parce que dans la vie chrétienne, tout est toujours facile, on devient très riche, on a plein d'or, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure en dénonçant quelque chose de faux. Non, la joie n'est pas le fruit d'une vie facile, mais le fruit de l'amour de Dieu en nous, et de l'amour entre nous. C'est ce qui explique que même dans une situation très difficile, on peut avoir la joie. Acte 16, 25, le verset de la non-panique, ne le cherchez pas. Je l'appelle le verset de la non-panique. À minuit, après une journée terrible, l'apôtre Paul a été persécuté, chassé. Qu'est-ce qu'il fait dans la prison à Troas? Il chante, enfin, il chante les louanges de Dieu avec Silas. Qu'est-ce que faisaient Cori et Betsy Ten Boom dans les camps de concentration? Elle chantait les louanges de Dieu. Incroyable. Parce que la vie était facile? Pas du tout. Mais parce que Dieu est bon. On nous l'a rappelé ce matin. Louez le Seigneur parce qu'il est bon. La joie, la paix, que c'est beau la paix dans les familles, dans les églises, dans les quartiers, dans les villes, dans le monde. Et on la souhaite plus, la paix. De quoi nous faire rêver. Dieu est celui qui offre la paix. La patience avec les autres, avec nous-mêmes, que c'est beau. La bonté, la bienveillance, un beau couple. La bonté est plutôt une attitude, la bienveillance plutôt des actes. Mais les deux vont bien évidemment, parfaitement, ensemble. La fidélité ou la foi, ça dépend des traductions. La constance. La douceur qui va avec la patience et avec le dernier. Il y a quelques années, quand je lisais ce verset, la maîtrise de soi, je le voyais un peu comme le petit dernier. Et aujourd'hui, je la vois comme la cerise sur le gâteau. Franchement, ne jamais perdre le contrôle. Ne jamais déraper. Si vraiment le maître de nous-mêmes, en fait, qu'est-ce qui nous arrive? On ne pêche plus. Pas mal. La maîtrise de soi. La cerise sur le gâteau. Et en relation avec le grand thème de la liberté, j'ai une dernière question devant ce fantastique verset. Comment est-ce que nous l'avons lu en général? Comment nous le lisons ce matin? Et quelle est ma suggestion pour qu'on continue à méditer ce verset? Il y a un peu deux grandes attitudes, et il me semble que la deuxième est vraiment la meilleure. La première, qui n'est pas fausse, mais qui n'est pas celle qui colle avec tout le fil conducteur de la lettre aux Galates. La première consiste à se mesurer à cela, et du coup à être un peu inquiet. Amour, 40%. Joie, pas mal en ce moment, hein, pas de soucis, 60%. Paix, quelques soucis. Patience, je passe, etc. Ce n'est pas faux. Ce n'est jamais faux de se repentir pour ce qui n'est pas selon Dieu dans nos vies. Mais je vous propose que la deuxième lecture est la plus juste et la plus en accord avec toute la lettre de Paul aux Galates, qui dit qu'on ne va jamais y arriver par nos propres forces. Donc il ne peut pas nous donner un baromètre pour nous faire honte. Toute la lettre aux Galates nous dit que c'est par grâce et par l'Esprit et pas par nos propres forces. Donc je vous propose une deuxième approche devant ces versets et je vous propose d'y voir une promesse. C'est pour ça que je vous ai invité à rêver. Le fruit de l'Esprit, c'est ce que Dieu va continuer à développer en chacun de nous. C'est ce qu'il a commencé à faire grandir en chacun de nous. Et je vous invite vraiment à voir dans ce fruit une merveilleuse promesse que Dieu veut donner à tous ceux qui libèrent et qui libèrent de plus en plus. Qui d'entre nous est parfaitement libre? Personne. Qui dans l'expérience quotidienne, qui a été libéré par Jésus-Christ? Tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui sont convertis. Mais Dieu veut affermir cette liberté et entre autres, le fruit de l'Esprit qui correspond à la liberté de ceux qui font le bien en chacun de nous. Conclusion, reconnaissance. Pour un cadeau multiple. La liberté, le moyen de la recevoir par grâce, une conséquence de cette liberté, un aspect de cette liberté, le fruit de l'Esprit. Donc, je vous invite vraiment à la reconnaissance devant ces quelques remarques de ce matin. Deuxièmement, un défi. Le défi de recevoir. Or, c'est un peu bizarre, hein, de dire que comme défi, il y a recevoir un si beau cadeau. Et oui, parce que par nature, nous sommes opposés à ce si beau cadeau. Et il nous faut continuer à combattre en nous ce qui s'oppose à l'esprit. Je vous invite à accepter de laisser l'esprit continuer à changer notre conception des choses et, entre autres, notre conception de la liberté. À être à ce point convaincu que la marche par l'esprit, dans la soumission à l'esprit, c'est la liberté. Mais il va falloir faire beaucoup d'efforts, et dans cette conclusion où je vous laisse un défi, je relève un verset que je n'ai pas encore lu, le verset 24. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous avez entendu le verbe ? Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit là ? Que la bataille est difficile. que la lutte est rude. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le reconnais encore, c'est mon expérience. La lutte contre ce qui est mauvais est difficile. Et ça revient au galon, les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes. Et il nous faut accepter comme défi de toujours et toujours redire à Dieu notre soumission, redire à l'Esprit transforme-moi, et nous redire à nous-mêmes, hey, attention, repousse le mal. La lutte contre le mal est une longue lutte de toute la vie. Mais le Seigneur est celui qui nous aide. Je ne veux pas vous faire peur, mais je ne veux pas non plus qu'on se croie dans un hamac. La merveilleuse vie chrétienne est difficile. Ça vous va ? La merveilleuse vie chrétienne est difficile. Et c'est une longue lutte contre ce qui fait de la peine à Dieu en moi. Ceux qui vivent avec le Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Tout dernier mot de conclusion, après reconnaissance, défi, je vous invite à l'adoration. Il est toujours là le verset. À l'adoration. Est-ce que vous l'avez reconnu ? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise totale. C'est qui ? C'est lui, hein ? Jésus-Christ. Adorons celui qui est l'homme parfait. Le second Adam, dit la parole de Dieu. Celui qui a été complètement soumis à l'Esprit. Celui qui nous rassemble ce matin. Celui devant qui il faut tomber à genoux dans l'admiration, l'adoration. Comme Marie qui s'est assise à ses pieds pour apprendre de lui, pour lui ressembler, pour l'imiter. Parce qu'il est le fruit de l'Esprit. Et nous voulons lui ressembler. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Merci pour ton esprit, merci pour ta présence, merci pour tes nombreuses promesses, merci parce que tu veux continuer à nous transformer, merci pour cette église ici à l'esprit. Nous te demandons pardon pour ce qui te fait de la peine en nous, ce qui nous tire vers le bas, ce qui nous éloigne de la vérité et du bien. Nous reconnaissons que le mal nous enveloppe facilement, comme le dit ta parole, et nous nous humilions devant toi. Et nous te bénissons devant ce rêve réaliste du fruit de l'esprit. Nous croyons, nous voulons que nos vies soient toujours plus conformes à cette merveilleuse réalité du fruit de l'esprit. Bénis cette église, bénis chacun notre vie et continue à développer en nous le bien, ce qui t'honore, ce qui te glorifie et ce qui correspond à notre bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.